Vos questions pour mieux comprendre l'actualité, s'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, que nous abordons dans nos différents journaux, et bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous ici à Paris et nos experts au sein de la rédaction, nos correspondants, nos envoyés spéciaux, vous répondent en direct, 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission, RFI Appel sur l'actualité, ou sur le compte WhatsApp de l'émission 33 6 89 28 53 64. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat. Nous parlerons tout à l'heure de la main tendue du président sénégalais. Main tendue à l'opposition qui rejette, vous le savez, les résultats de l'élection présidentielle du mois dernier. En tout cas, lors de son premier discours, après la confirmation de sa victoire, Macky Sall a proposé à ses adversaires politiques un dialogue national. Sont conviés, eh bien, toutes les forces vives de la nation, y compris, tenez-vous bien, ses prédécesseurs, à savoir Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Et toute la question, évidemment, ce matin est de savoir si l'opposition acceptera cette main tendue. Faut-il d'ailleurs des préalables à la tenue de ce dialogue? Certains réclament déjà la libération de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, condamné à 5 ans de prison. Le débat s'annonce passionnant, si j'en crois les réactions déjà postées sur la page Facebook de l'émission et les commentaires que nous recevons sur le compte WhatsApp. Donc continuez à nous rejoindre et nous vous donnerons la parole dans une trentaine de minutes. D'abord donc, vos questions et des questions pour commencer sur cette gigantesque panne d'électricité qui paralyse le Venezuela depuis jeudi dernier. Bonjour Babacar.
Bonjour Juan.
Merci de nous appeler du Sénégal. On vous écoute, soyez le bienvenu.
Bonjour à tous les auditeurs de RFI et à toute l'équipe d'appel sur l'actualité.
Merci.
Le Venezuela vit dans le noir depuis jeudi dernier suite à une panne globale d'électricité. Nicolas Maduro accuse les États-Unis. Cette accusation est-elle réellement fondée?
Ah, effectivement, c'est une bonne question. Peut-on parler d'une panne ou s'agit-il d'un sabotage? En tout cas, hier soir, le gouvernement a affirmé que le courant était rétabli dans la plupart des régions, à l'exception du Grand Ouest et de certains États du centre. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Juan.
Journaliste au service international de RFI. Concrètement, Stéphanie, que reproche exactement le gouvernement vénézuélien aux États-Unis?
Alors, selon les autorités vénézuéliennes, la gigantesque panne de courant qui a affecté le Venezuela pendant 5 jours et qui touche, comme vous venez de le dire, actuellement toujours certaines zones du pays, a été causée par un sabotage. Lundi soir, à la télé, Nicolas Maduro a expliqué que le réseau électrique du pays a été attaqué à 3 reprises. D'abord, une cyberattaque aurait visé les systèmes informatiques de la centrale hydroélectrique de Gouri. C'est l'un des plus grands barrages du monde qui fournit 70% de l'électricité au Venezuela. Un deuxième attentat, cette fois d'ordre électromagnétique, selon le président, aurait visé le processus de récupération du système tombé en panne. Et enfin, la dernière phase des attaques aurait été de faire exploser plusieurs centres de distribution de courant. Mais force est de constater, Juan, que jusqu'à présent, les autorités n'ont pas présenté la moindre preuve pour corroborer ces accusations.
Oui, pas de preuve pour l'instant. Babacar nous demandait tout de même si ces accusations formulées depuis jeudi par le régime Maduro sont tout de même crédibles.
Alors, il faut savoir qu'il est impossible à ce stade de confirmer ou d'infirmer ces accusations. Selon plusieurs experts vénézuéliens, certaines parties du système sont potentiellement attaquables. Mais quand même, Juan, il est permis d'avoir des doutes concernant la version du gouvernement. Tout d'abord parce que cette catastrophe d'ampleur nationale est annoncée depuis au moins 10 ans par les experts, les syndicalistes, les ingénieurs et les ouvriers du secteur énergétique vénézuélien. On en a beaucoup parlé aussi sur nos antennes. Tous dénoncent, pour faire simple, 3 points essentiels. Premièrement, le gouvernement de Chavez, puis Maduro, n'ont pas entretenu le réseau électrique de manière adéquate. Deuxièmement, beaucoup de spécialistes hautement qualifiés du secteur énergétique vénézuélien ont été licenciés à partir de 2004 lors de purges politiques et ils ont été remplacés par des proches du régime qui sont souvent des militaires, donc moins qualifiés. Et puis, troisièmement, il y a le problème de la corruption. Des milliards de dollars ont été dépensés pour acheter des générateurs électriques chinois. Ces contrats ont enrichi des sous-traitants, mais n'ont pas réglé le problème au fond énergétique du pays. Il y a 3 semaines seulement, peut-être vous vous souvenez, des salariés de la compagnie nationale Corpoelec tiraient déjà la sonnette d'alarme, ou peut-être on peut dire encore une fois la sonnette d'alarme, sur la chaîne privée VPI. Ils dénonçaient l'état de délabrement avancé des installations, le manque criant de matériel et d'équipement pour les ouvriers, ainsi que le départ à l'étranger de la dernière main-d'œuvre qualifiée qui a fui le pays à cause de la crise. Après la diffusion de ces interviews à charge donc pour le gouvernement, ces mêmes salariés ont été licenciés sur le champ.
Et il faut dire également, Stéphanie Schuller, que depuis des années maintenant, les Vénézuéliens subissent des coupures de courant quotidiennes et intempestives.
Oui, et cela pose d'immenses problèmes évidemment à la population, mais aussi à l'industrie. Par différentes mesures, le gouvernement Maduro a tenté d'affronter ces dernières années ces coupures de courant, comme en avril 2016, quand il a décidé que les fonctionnaires ne travailleraient plus que 2 jours par semaine pour faire des économies d'énergie, mais aucune décision n'a été prise pour reprendre véritablement en main le réseau électrique.
Allez, Babacar a une autre question à vous poser, mais d'abord, en quelques mots, Stéphanie Schuller, sait-on concrètement à l'heure qu'il est ce qui s'est passé jeudi dernier? Qu'est-ce qui a provoqué finalement cette immense panne de courant ?
Alors, les experts du réseau vénézuélien avancent différentes hypothèses. On sait par la compagnie Corpoelec elle-même qu'un feu de brousse a affecté la semaine dernière des lignes de haute tension qui relient la centrale de Goury au reste du pays. Pourquoi ? Parce que les pylônes électriques non entretenus ont été envahis par la végétation. Selon certains spécialistes, cet incendie a créé une réaction en chaîne dans l'ensemble du réseau à cause du manque de maintenance et a, au final, causé l'arrêt des turbines de Goury. Alors, le gouvernement aurait tenté à plusieurs reprises de redémarrer la centrale. Samedi, une de ces tentatives aurait causé l'explosion d'un centre de distribution, Juan.
Vous aviez une autre question, Babacar ?
Oui, Juan.
On vous écoute.
Quelles sont les solutions mises en œuvre pour tenter de remettre le courant ?
Ah, Stéphanie Schuller. Que sait-on ?
De facto, c'est ça le problème toujours, Juan, au Venezuela actuellement. De facto, on n'en sait rien, car le gouvernement de Nicolas Maduro n'a donné aucun détail technique sur les interventions au niveau du réseau. Dans un discours radio-télévisé hier soir, Nicolas Maduro a renouvelé seulement ses accusations en direction des États-Unis et de l'opposition vénézuélienne. Et il a aussi annoncé la création d'une commission d'enquête à laquelle doivent participer des experts, écoutez bien, de pays étrangers, mais tous sont alliés du régime, à savoir des experts de la Russie, de la Chine, de Cuba et de l'Iran.
Merci beaucoup Stéphanie Schuller d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir pris le temps de nous expliquer la situation en ce moment au Venezuela. Babacar, on vous souhaite une belle journée à Dakar.
Merci, Juan.
Merci, bonne journée. 9h18 à Paris, 8h18 à Dakar, au Sénégal, où vous nous écoutez sur les 92. Des questions après le crash d'Ethiopian Airlines. Bonjour, Herman.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes à Koudougou, au Burkina Faso. On vous écoute.
Oui. Dimanche dernier, un Boeing appartenant à la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé jusqu'après son décollage. 150 personnes sont mortes, alors que l'avion était en circulation depuis moins d'une année. Quelles sont les causes suspectées d'être à l'origine du crash ?
Oui, d'autant qu'il s'agit tout de même du deuxième accident en quelques mois impliquant un Boeing 737 Max. Bertrand Villemer, bonjour.
Bonjour.
Ancien pilote d'essai, expert judiciaire aéronautique près la Cour de cassation de Paris. Les 2 boîtes noires de ce Boeing ont été retrouvées, ce qui permettra sans doute à l'enquête de progresser. Ce qui sème le trouble tout de même, Bertrand Villemer, c'est que l'accident de dimanche ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui survenu il y a 4 mois au large de l'Indonésie.
Oui, vous avez raison, il y a 3 points communs et il y a une décision de l'Agence fédérale américaine qui confirme ces 3 points communs. Le premier, c'est que c'est le même type d'avion et un numéro de série très proche. Ces deux appareils sont sortis de chaîne pratiquement en même temps. Le deuxième, c'est que les pilotes ont demandé à chaque fois de faire demi-tour pour des problèmes techniques. Ils ont parlé de difficultés, c'est quand même pas commun. Et le troisième, c'est qu'il y a eu des oscillations de l'appareil, il y a néo, né bas, qu'on a vu sur les boîtes noires, lors de la lecture des boîtes noires du crash de Lion Air du 29 octobre 2018, et qu'on a vu sur une application classique que tout le monde connaît, qui s'appelle Flight Radar, sur celui d'Ethiopian Airlines.
D'accord, mais donc, quel serait le problème, Bertrand Villemer, pour parler simplement aux auditeurs?
Alors, il y a trois problèmes. Le premier, cet appareil a un problème de conception. Le deuxième, il y a eu un problème de certification. Et le troisième, il y a eu un problème de traitement de ces deux soucis. Problème de conception sur le logiciel de commande de vol, problème de certification parce que les certificateurs, l'agence fédérale américaine, l'a vu ou ne l'a pas vu, ce qui est presque pire, hein, et problème de communication parce qu'actuellement, la façon dont le sujet est traité, on le voit bien, c'est inédit. C'est-à-dire que c'est la base, c'est les compagnies, c'est les pilotes, c'est même presque les passagers maintenant aux États-Unis qui ont poussé les États à arrêter l'appareil de vol.
Effectivement. On va y revenir dans un instant. Herman a également des questions sur cette décision prise dans de nombreux pays et notamment au-dessus de l'espace aérien européen. Vous diriez en tant qu'expert, Bertrand Villemer, de façon affirmative, que Boeing a fait preuve de négligence?
Quand Boeing... Après un accident où aucune lecture des boîtes noires n'est encore intervenue, hein, je parle de celui qui a lieu dimanche, quand Boeing fait une notification aussi précise et aussi importante que celle-là, hein, je vous la cite, donc effectuer les changements requis avant fin avril. C'est ce que l'Agence fédérale américaine demande à Boeing. Effectuer des changements avant fin avril. C'est combinatoire. Et ces changements, c'est modifier et actualiser les procédures de secours. Je ne sais pas si vous voyez les conséquences que ça a. Deuxièmement, modifier le système de contrôle d'incidence de l'appareil. Et troisièmement, modifier le logiciel qui sert à contrôler l'appareil. Donc ces trois décisions de l'Agence fédérale américaine portent sur le cœur du contrôle en vol de l'appareil.
Ouais, évidemment. Et tout cela donc d'ici la fin du mois prochain. Combien de Boeing 737 MAX sont en circulation à travers le monde selon vous?
340 ont été produits depuis le début.
Ouais. Bertrand Villemer, restez avec nous. Herman a une dernière question à vous poser.
Oui, Juan. Plusieurs pays ont suspendu les vols avec ce type d'appareil jusqu'à la fin de l'enquête. Quelles peuvent être les répercussions sur l'entreprise Boeing?
Alors, les pays sont nombreux, on ne va pas tous les citer. En tout cas, la dernière décision prise date d'hier. L'Agence européenne de sécurité aérienne qui a donc décidé de fermer l'espace aérien européen au Boeing 737. C'est évidemment un coup dur pour le constructeur américain, Bertrand Villemer.
En fait, il y a trois conséquences pour Boeing. La première conséquence, qui peut être un petit peu à long terme, qui est difficile à estimer, c'est une conséquence économique. Parce qu'effectivement, quand les appareils sont cloués au sol, ben, les compagnies elles perdent de l'argent. Et certaines peuvent être fragilisées. La deuxième conséquence, qui est peut-être aussi un peu grave et qui peut perdurer, c'est la confiance qu'ont les passagers. Et la troisième conséquence, elle est technique. C'est-à-dire que quand vous prenez la décision d'arrêter l'appareil de vol, même si ce n'est pas le cas, stricto sensu, la notification qui est faite par la FAA entraîne de facto l'ensemble des compagnies à arrêter les appareils de vol pour faire ces modifications.
La FAA, pardon, la FAA.
C'est l'autorité de régulation de l'aviation américaine.
D'accord. Ouais.
C'est l'agence fédérale américaine de l'aviation. À partir du moment, imaginez une compagnie qui dit bon, les modifications, je vais les faire le 25 avril. Puisque j'ai jusqu'au 30 avril pour les faire. Donc elle va voler jusqu'au 25 avril et imaginez qu'il y ait un accident. Donc toutes les compagnies qui exploitent ce genre d'appareil vont forcément faire ces modifications. Et ces modifications, c'est pas eux qui peuvent les faire, c'est Boeing. Donc les compagnies prennent un risque terrible. Et en laissant les appareils en vol, en exploitation.
En même temps, de nombreux pays ont décidé justement de les laisser au sol, de les immobiliser.
Oui, en fait, c'est pas tellement les pays qui ont décidé. Il y a un côté, si vous me permettez le parallèle qui est un peu osé, il y a un côté gilet jaune. C'est-à-dire que c'est la base, c'est les compagnies, c'est les syndicats de pilotes, et y compris aux États-Unis, qui ont poussé les États a fermé leur espace aérien.
Ouais.
Après, il y a d'autres raisons, moteurs comme la Chine, mais ça, c'est autre chose.
Évidemment, mais on sent bien effectivement cette pression de la base dont vous parliez à l'instant. Merci beaucoup, Bertrand Villemaire, d'avoir pris le temps ce matin pour répondre à Herman. Je rappelle que vous êtes ancien pilote d'essai, expert judiciaire aéronautique près la Cour de cassation de Paris. Il nous reste 5 minutes. On avait prévu bien d'autres questions ce matin, mais on va s'intéresser. On va prendre cette dernière concernant le Paris Saint-Germain. Son avenir est en question. Frédéric Suteau, bonjour.
Bonjour, Juan.
Journaliste au service des sports de RFI, Oumar. Plusieurs questions à vous poser, Frédéric Suteau. Bonjour, Oumar.
Bonjour, Juan.
Vous êtes à Bamako.
Bonjour, Frédéric de RFI.
On vous écoute.
Après la déroute face à Manchester United la semaine dernière, le PSG, et dernièrement, vu les mauvais résultats du PSG la saison précédente en Ligue des Champions, peut-on envisager les Qataris que les Qataris retirent les investissements du club? Le président du PSG risque-t-il d'être limogé?
Ah, beaucoup de questions. Je ne sais pas si Frédéric Suteau a la boule de cristal, mais ce sont des questions intéressantes que nous pose Oumar quand on connaît les sommes dépensées par le Qatar, les investissements colossaux pour finalement un tel fiasco. Frédéric, est-ce que l'État émirien peut se désengager du PSG?
Non, ce n'est pas d'actualité pour l'instant, malgré cette désillusion énorme face à Manchester United, hein, le PSG qui ne parvient plus à accéder au quart de finale de la Ligue des Champions depuis plus de 3 ans maintenant. Maintenant, le Qatar, pour poser les choses, le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain en 2011. Mmh. Ils ont investi, il est vrai, depuis 2011, près d'un milliard d'euros sur les joueurs, hein, sur les transferts. Alors, la première tête de gondole, c'était Zlatan Ibrahimovic, le Suédois. Le PSG est arrivé en quart de finale de la Ligue des Champions avec lui et n'a pas été loin d'aller plus loin dans le dernier carré. Et puis, il y a eu, en 2017, les arrivées conjuguées de Neymar et de Kylian Mbappé, donc des investissement massif pour le Qatar qui ne paye pas pour l'instant sur la scène européenne. Dans les tribunes face à Manchester United mercredi dernier, l'émir du Qatar était là, l'émir Al Thani. Forcément, il n'a pas dû vraiment apprécier ce qui s'est passé sur le terrain, mais il faut replacer tout cela dans le contexte géopolitique du Golfe. Le Qatar a misé sur le Paris Saint-Germain. Quelque part, l'objectif, c'est pas tant la rentabilité économique. Hein. L'émir est suffisamment riche, le Qatar avec toutes ses ressources gazières, mais il y a cette guerre avec les voisins, d'autant plus hein, depuis que le Qatar a été mis au banc par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Et donc, le PSG sert de vitrine.
Oui, mais
c'est une
temps,
image, ils ne peuvent pas la lâcher. Quand le PSG est champion, on fait la fête au Trocadéro pour avoir la Tour Eiffel derrière, ça scintille, et les images sont diffusées dans le monde entier. C'est ça que veulent les Qatariens.
Mais les Qatariens ne font pas souvent la fête. Donc, évidemment, et vous avez raison d'insister sur cet aspect géopolitique, lorsque le PSG est éliminé en 8e de finale, en Arabie Saoudite, on se frotte les mains.
On se frotte les mains en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi, où Manchester City est tenu par Abu Dhabi, et c'est la guerre entre le Qatar et
donc ce n'est pas
et
un bon
Émirats.
Investissement, même en termes d'image géopolitique.
Ce n'est pas un bon investissement, ça ne paie pas pour l'instant, mais vous savez, c'est une marque qu'ils essaient de créer, comme Ferrari, les All Blacks, Real de Madrid, Manchester, et donc on déploie toutes les cartes possibles. Il y a les résultats sportifs, bien entendu, mais ce sont les maillots qui sont vendus. Quand on achète Neymar et Kylian Mbappé, c'est pour vendre des maillots en Asie et dans le monde entier. Mais pour revenir à la question d'Oumar, non, le Qatar ne va pas retirer ses billes, d'autant plus qu'il y a la Coupe du Monde 2022 qui va arriver très vite hein, et qui se déroule au Qatar. Pas question de se retirer avant cette Coupe du Monde 2022. Mais en revanche, la position de Nasser El Khelaifi, qui est un proche...
Le président du club.
Du club, le président. Sa position devient de plus en plus fragile, car c'est lui qui est le président, qui est là. C'est lui qui essaie d'impulser cette dynamique, et pour l'instant ça ne paie pas, nous l'avons dit. Nasser El Khelaifi, qui n'est pas toujours présent ici hein, il a beaucoup de casquettes, président de la Fédération asiatique de tennis également, il est à la tête du groupe de médias Bein Media. Bon, Nasser El Khelaifi, on attend qu'il tape du poing sur la table, comme pourrait le faire, ou comme l'a fait le président du Real de Madrid, Florentino Pérez. Hein. Là, on est éliminé de la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben, on change de sélectionneur, d'entraîneur.
On rappelle Zinedine Zidane et on vire Santiago Solari. Là, Nasser El Khelaifi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on confirme Thomas Tuchel, l'entraîneur, et on ne change rien, on verra l'année prochaine.
Eh bien, on verra. Merci beaucoup Frédéric Suteau de cette analyse. Oumar, bonne journée à Bamako. Merci de votre fidélité. D'autres questions, évidemment, demain matin, dès 8h10, temps universel, 9h10, heure de Paris. préparer. D'ici là, appelez-nous, vos questions nous intéressent. Aucune question n'est taboue, donc profitez-en. Appelez-nous, 33 9 693 693 70. À suivre le journal, et on revient dans 10 minutes pour parler de cette volonté du président sénégalais d'entamer le dialogue avec l'opposition. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.